Ce n'est pas un secret. Notre environnement est en pleine transformation et des enjeux comme la durabilité, le climat, la diversité et l'inclusion sont sur toutes les lèvres. Et si la finance pouvait jouer un rôle de moteur de changement positif dans notre société? C'est réellement l'une de nos convictions. Afin de mieux comprendre les différents aspects de la finance durable, nous avons voulu nous entretenir avec des leaders visionnaires de la finance québécoise afin qu'ils nous fassent part de leurs idées et innovations. Je suis Alexandre Vette, associé chez Chapuis Halder. Bienvenue au balado produit en collaboration avec Finance Montréal, au fond des choses. J'ai le plaisir de m'entretenir aujourd'hui avec Jenny Béhic, présidente et chef de la direction du Fonds de solidarité FTQ, le plus grand réseau québécois d'investissement en capital de développement. Nous discuterons notamment de son parcours et des valeurs qui la mobilisent, de la politique de développement durable et d'investissement responsable du fonds, de création d'emplois et de transition énergétique juste. Bonjour Jenny.
Bonjour.
Merci de ta présence dans ce balado. Jenny, tu es la première femme présidente et chef de la direction du Fonds de solidarité FTQ. Et quand on connaît et on voit ton parcours, on comprend et on réalise que ce n'est pas du tout par hasard. Mais justement, peux-tu nous parler un peu de ton parcours? Qu'est-ce qui t'a toujours motivé dans tes décisions?
Partout, tout le long, toute ma vie, ça a vraiment été faire une différence. Quand j'étais avocate, faire une différence, très humblement, aider des entreprises, aider des entrepreneurs à grandir, à relever leurs défis. Là, je me suis dit, OK, je peux faire mieux, je vais me rapprocher du Québec un peu plus. J'ai fait le saut au niveau du fonds. Affaires juridiques, ce désir d'apprendre, de faire une différence m'a permis de mieux comprendre les rouages de l'entreprise. Ça m'a permis d'avoir un premier contact avec l'épargne, l'importance de l'épargne. Après ça, j'ai fait un saut à l'investissement. J'ai fait plusieurs secteurs. J'ai compris, j'ai touché à la recherche et sciences de la vie, les startups, la culture, le cinéma, les forêts, l'agroalimentaire, la transformation alimentaire. En tout cas, j'en ai fait plusieurs. J'ai marché le Québec à plusieurs, pas littéralement, là, mais au sens figuré, aller dans les régions pour comprendre le tissu économique du Québec. Toujours dans une perspective double de comprendre puis de voir comment est-ce qu'on est capable de faire une différence. Si tu veux aider les gens, il faut que tu les comprennes à la base. Puis comme présidente, bien, toujours la même chose. Je me souviens quand j'ai été nommée, je me suis levée le matin et je me suis dit, oh mon Dieu, je suis responsable de presque 1000 hypothèques, la retraite de presque 740 000 personnes. Et puis, on a des attentes parce que les enjeux sont énormes. Puis les entreprises ont des attentes, on est leurs partenaires, ils veulent qu'on fasse équipe pour relever les défis qu'elles ont. Donc, encore là, de voir comment est-ce qu'on est capable de mettre en place des conditions gagnantes pour à la hauteur de nos moyens puis de ce qu'on est capable de faire, contribuer à faire en sorte qu'on ait une meilleure société. Voir comment est-ce qu'on est capable de mieux s'investir comme employé, comme citoyen, comme organisation.
Inspirant, vraiment. Merci pour ce partage. Et justement, quelles sont les raisons ou les valeurs qui t'ont poussé à prendre ce rôle de présidente et chef de la direction du Fonds de solidarité FTQ?
Toujours la même chose. C'est une valeur de faire une différence. Puis dans la discussion qu'on va avoir, je vais souvent revenir sur toute cette question-là, faire une différence, agir avec des valeurs, avoir le courage de faire des valeurs. Puis c'est, pour moi, c'est un grand privilège de travailler pour le fonds parce que le fonds a été créé en 1983, a été assez avant-gardiste. Puis je vais revenir, je vais faire juste une parenthèse sur le fonds parce que de comprendre le contexte dans lequel il a été créé puis pourquoi il a été créé aide à comprendre ce qu'on fait aujourd'hui puis ce qu'on veut accomplir dans le futur. Donc, 1983, taux d'intérêt 14-15%, ça pouvait être plus élevé que ça. Toute la question du chômage aussi assez élevée. Je pense que ça a été un des moments dans l'histoire du Québec où ça a été parmi les plus élevés. Puis la centrale syndicale qui est à l'origine de la création du fonds, donc la FTQ, pour eux, on avait des gros enjeux de société. Et pour eux, ils disaient, il faut que tout le monde contribue pour les adresser. Ça peut pas être juste la job des entrepreneurs, ça peut pas être juste les banques, ça peut pas être juste les gouvernements. Il faut que tout le monde mette la main à la pâte. Et la contribution des travailleurs, ça a été justement cette idée de créer le Fonds de solidarité. Donc, ils ont pris une partie de leur économie pour la retraite, puis ils les ont confiés au fonds, puis ils ont dit au fonds, voici, on te donne des moyens, mais voilà, il y a des conditions qui sont attachées à ces dollars-là que tu vas utiliser. Donc, un des premiers dollars, c'est bon, on veut que tu aides à la création d'emplois à l'époque, mais on veut que, dans le fond, on veut que tu adresses les enjeux de société. À l'époque, c'était la création d'emplois, puis au fur et à mesure que le fonds grandit, c'était des enjeux de société qui étaient différents. La deuxième des conditions, on disait, on veut que tu agisses à long terme. On veut que tu regardes, que tu investisses dans des bonnes entreprises. Donc, c'est quoi investir dans des bonnes entreprises? Puis, je vais revenir plus tard là-dessus. On fait un bilan social. Donc, on regardait quel genre de citoyen corporatif cette entreprise-là était. Quel genre d'employeur cette entreprise-là était. Après ça, on disait, on veut que tu réagisses, que tu réfléchisses à long terme. On veut pas que tu agisses sur le court terme. On veut que tu regardes plus loin dans les décisions que tu prennes. On veut que tu prennes des décisions qui parfois sont moins payantes, mais qui sont importantes pour la société. Donc, tout ce qu'on fait dans le logement social, dans le logement abordable, c'est sûr qu'on a des rendements moindres quand on fait ce genre d'investissement-là, mais ça fait partie des attentes de nos actionnaires. Troisième affaire, on disait, on veut que tu fasses de la formation en entreprise. Pourquoi de la formation en entreprise? Parce qu'ils disent, les travailleurs ont un rôle à jouer, puis si on veut qu'ils jouent ce rôle-là, dans tous les enjeux que leur entreprise ont puis dans les enjeux que la société a, il faut qu'ils les comprennent. Donc, tu vas les former sur certains enjeux. Le dernier, c'était vraiment d'être un partenaire de ces entreprises-là. Donc, d'être capable de non seulement être un investisseur, mais de s'asseoir avec le propriétaire, l'entrepreneur, puis de leur dire « comment je peux t'aider? » Puis, c'est ça que tu as besoin d'aide, bien, on se trousse les manches et on prête des gens ou on les lie avec ces gens-là. Donc, tu sais, si je le résume à haut niveau, c'était de dire, on va faire, tu dois non seulement générer un rendement financier, ce qui était la norme, mais tu dois générer un rendement, ce qu'on appelle un rendement sociétal, donc un impact dans la société. Donc, on veut être capable de mesurer l'impact que tu as. Ça me ramène à ta question. Donc, qu'est-ce qui m'a amené, qu'est-ce qui m'a toujours mobilisé, c'est vraiment les valeurs, donc de faire une différence, puis comment on est capable de faire encore plus pour l'économie du Québec.
Excellent, merci. Des valeurs, effectivement, d'intérêt pour tous, et pas juste pour le Fonds de solidarité FTQ. Je sais par ailleurs que ton implication ne se limite pas à ton rôle au sein du fonds. Peux-tu nous parler de tes autres implications, des sujets auxquels tu tiens spécifiquement?
Oui, je suis une personne qui s'est toujours impliquée socialement, puis impliquée dans des associations, puis je m'implique aussi dans les entreprises. Donc, j'ai toujours, effectivement, à travers mon cheminement, j'ai été impliquée dans Jeunes en tête. Aujourd'hui, je suis dans l'Orchestre symphonique de Montréal, je suis sur Aéro Montréal, j'ai été impliquée dans toute l'industrie du capital de risque avant, puis je suis sur le conseil d'administration du Canadien de Montréal, d'une entreprise qui s'appelle Functional Lab. Ça a toujours fait partie de mes valeurs, l'importance de s'impliquer dans des associations au-delà de son travail. D'ailleurs, le Edelman a fait un sondage, puis 84% des employés s'attendent à ce que leur patron s'implique dans des choses. Je vous dirais que la cause que j'ai pris sous mon aile et dans laquelle je réfléchis à voir comment je préfère plus que des dollars, c'est vraiment toute la question de la violence conjugale. J'ai un parcours qui fait en sorte que j'ai côtoyé la violence et puis c'est passé quelque chose dans ma vie personnelle pendant la pandémie qui a fait en sorte que j'ai été témoin de quelque chose puis je me suis dit « OK, ça finit là, je vais faire quelque chose au niveau de la violence conjugale, je suis dans une position, je suis capable de faire la différence sur plusieurs éléments, puis le premier que j'ai décidé d'aborder, c'est vraiment toute la question de la violence conjugale, donc on a fait des dons. On a commencé à faire de la sensibilisation. Puis on travaille sur des choses. C'est un projet dans lequel on mettra à contribution non seulement nos dollars, mais l'expertise et le talent qu'on a au fond. C'est que oui, c'est important de s'impliquer. Puis plus tu as un poste influent dans une organisation, plus c'est un devoir que tu as de t'impliquer dans des choses qui font avancer notre société au-delà de via ton entreprise.
Effectivement, une cause malheureusement trop d'actualité, et merci de ton implication. Si l'on parle du fonds plus spécifiquement, tu l'as déjà abordé, mais le fonds n'a pas attendu et a depuis plusieurs années une politique de développement durable, d'investissement responsable, et a même pour slogan « s'investir pour une meilleure société ». Tu as commencé à aborder ce point-ci, mais moi ce qui m'intéresserait, c'est quels sont aujourd'hui les défis que vous avez à relever pour concrétiser cette vision?
De s'investir comme une société. Les défis, ben dans le fond, les défis qu'on a, c'est les défis de la société. Dans le fond, ce qu'on fait, au fond, c'est qu'on essaie de prendre certains enjeux puis de voir comment est-ce qu'on est capable de faire une différence. Si on prend le premier volet de notre mission, parce qu'on a comme trois volets, on a toute la question de l'épargne, la question de la formation puis la question de l'investissement. Si on prend du côté de l'épargne, pour un tiers de nos actionnaires, on est leur seule solution d'épargne pour leur retraite. 5 personnes sur 10 au Québec sont laissées à eux-mêmes pour leur épargne. Si on veut, en quelque part, avoir un avenir collectif puis des gens qui sont bien à la retraite, ben, il faut encourager et soutenir l'épargne. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Beaucoup de choses au niveau de l'épargne, la sensibilisation, mettre en place des conditions gagnantes, leur faire comprendre l'importance de l'épargne. Au niveau de la formation, qu'est-ce qu'on fait pour l'enjeu de société? En ce moment, on le sait, on a la crise climatique. On a un retard au niveau de la productivité. C'est important que les entreprises fassent une transition d'un point de vue environnemental, fassent une transition d'un point de vue technologique. Et la transition, une partie importante du succès des entreprises, c'est leur capacité à ce que les employés embarquent, comprennent et fassent partie de la solution. Donc, on fait beaucoup d'accompagnement au niveau de la formation des travailleurs, la formation non seulement des travailleurs, mais du support aux entreprises pour que ça se fasse de façon juste comme transition. Puis au niveau des entreprises, bien, au-delà des dollars qu'on investit, je pense qu'on est rendu à travers les quelques véhicules du fonds, on est probablement à 1,5 milliard par année qu'on investit dans l'économie du Québec. Bien, notre rôle, c'est de travailler avec tous les autres acteurs de l'écosystème pour faire en sorte qu'on fait grandir notre société. Donc, oui, on investit, oui, on fait de l'accompagnement, puis oui, on travaille avec tout l'écosystème pour voir comment est-ce qu'on peut faire pour être meilleur. Tu sais, je reviens avec l'histoire du Fonds de solidarité. C'est pas juste la job des gouvernements, c'est pas juste la job des entreprises. Il faut que tout le monde contribue si on veut être capable de régler de façon durable ou importante les enjeux qu'on a à combattre au niveau de notre société ou à faire face les défis qu'on a à relever au niveau de notre société. Fait que qu'est-ce qu'on fait? Bien, nous autres, à travers nos trois bras, bien, on essaie de faire avancer le débat.
Excellent. Et de ce que j'en comprends, avec succès. Tu l'as mentionné tout à l'heure, et je l'ai noté effectivement dans plusieurs de vos publications, un outil que vous avez mis de l'avant dans vos prises de décision d'investissement, c'est le bilan social des entreprises. Est-ce que tu peux nous éclairer un peu plus sur cet élément? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce concept?
C'est intéressant parce que le bilan social, c'est un peu... au début, quand je vous parlais de l'importance qu'on nous demandait d'investir dans des bonnes entreprises. Puis une bonne entreprise, c'est pas juste financièrement, c'est pas juste regarder ses résultats, sa capacité, est-ce qu'elle est dans un bon marché, etc. Mais c'était tout le volet humain. Donc, dès 83, dès notre création, c'est un peu l'ancêtre du ESG. Le bilan social, c'était le diagnostic qu'on faisait, on rentrait pour regarder dans les entreprises quel genre d'entreprise elle était au niveau de ses valeurs. Donc, on regarde les conditions d'emploi, mais on regarde le roulement des employés. On regardait tous ces éléments qu'aujourd'hui... Il y a une pénurie de main-d'œuvre, puis les entreprises parlent beaucoup de l'expérience employée, puis ils sont très préoccupés par est-ce que mes employés sont bien, est-ce que mes employés progressent, est-ce que mes employés sont heureux, est-ce qu'ils sont dans un contexte de travail qui est sécure, est-ce qu'ils sont dans un contexte de travail qui fait en sorte qu'ils produisent bien, qu'ils se développent. Mais c'est tous ces aspects-là qu'on regardait, la santé et sécurité, le développement, le taux de roulement, les communications, le type de gestionnaire qu'on avait, les valeurs que les gens qui étaient à la tête des entreprises avaient. Parce que, tu sais, à la fin de la journée, ce qu'on a une affaire, c'est que tu as beau avoir le meilleur bilan financier, si tu n'as pas des leaders, des gestionnaires qui ont des valeurs, qui ont une vision, puis qui réalisent la valeur du capital humain dans lequel ils ont, ben, tu n'auras pas un bon investissement. Ça fait que c'est ça le bilan social. C'est comme une forme d'évaluation qu'on faisait. On regardait aussi quel genre de citoyen corporatif c'était, son implication dans la société. On regardait s'ils avaient des produits. Puis les bilans sociaux étaient toujours faits dans une perspective de dire, OK, ça c'est son état, est-ce qu'il veut grandir? Puis après ça, comment est-ce qu'on est capable de l'aider? peut-être des fois, le bilan social ou les résultats des évaluations qu'on faisait ont fait en sorte qu'on a eu des décisions un petit peu plus difficiles à dire. Puis peut-être vous donner un exemple de discussion qu'on avait avec les entreprises. Une des premières discussions difficiles que j'ai eues, à laquelle j'ai participé quand je suis arrivée au fond, c'était une entreprise qui était très profitable, une entreprise qui avait le vent dans les voiles, tout le monde voulait investir dedans, c'était une compagnie publique. Et elle avait des opérations dans les pays du tiers-monde. Et quand on avait été, nos gens de bilan sociaux avaient été visiter les installations dans ces pays-là, ils sont revenus puis ils ont dit, Janie, ça n'a aucun bon sens, les toilettes sont barrées entre 8h30 et l'heure de la pause. Ils sont débarrés pour l'heure de la pause, ils sont débarrés sur l'heure du lunch. Si t'es enceinte, t'es congédiée. Donc, il y avait des profils d'employés qui prenaient ou qui ne prenaient pas parce que les réflexions étaient complètement axées sur la productivité. Donc, on est revenu et on leur a dit, écoutez, nous autres, on n'est pas à l'aise d'être associés avec une compagnie qui a ce genre de comportement-là. Et on a eu plusieurs débats, puis je me souviens, à un moment donné, ils m'ont regardé puis ils m'ont dit, pourquoi tu te soucies de ce qui se passe si loin, là, au Québec, là, les employés sont heureux, ils sont bien, vous faites de l'argent, je ne comprends pas pourquoi tu nous emmerdes avec tes questions de ce qui se passe. Et puis, finalement, on est retourné à notre conseil d'administration, puis on leur a dit, écoutez, nous autres, on ne peut pas rester associés à une entreprise qui ne veut pas progresser, donc on a vendu notre stock. Et puis, sachant pertinemment qu'on allait laisser du rendement futur sur la table, mais pour nous, ça faisait partie de nos valeurs. Ça fait que le bilan social, c'est ça, c'est de regarder au-delà des chiffres, au-delà du rendement financier qu'une entreprise t'apporte, qu'est-ce qu'elle a dans ses tripes, qu'est-ce qu'elle a, comment est-ce qu'elle se comporte comme citoyen avec ses employés puis comme citoyen corporatif.
Et j'en suis persuadé, c'est des choix comme ceux-ci qui feront évoluer les choses.
Bien, qui font évoluer, mais il faut garder à l'esprit qu'en 2000, les gens nous regardaient en disant, les gens ne comprenaient pas, là, on était des citoyens de deuxième classe parce qu'on avait des valeurs puis que c'était important pour nous d'agir en fonction. Puis, tu sais, on avait des discussions, on n'est pas dans la philanthropie, on a des actionnaires qui comptent sur nous pour leur retraite, j'en ai parlé plus tôt. Donc, c'est important pour nous de livrer un rendement, mais pas à n'importe quel prix.
Excellent. Pas toujours facile d'avoir raison avant tout le monde.
Honnêtement, je voudrais vraiment pas présumer qu'on a raison, puis c'est un grand privilège pour moi. Non, c'est un grand privilège pour moi parce que le fond, c'est dans son ADN. Tu sais, en ce moment, on voit Danone, des compagnies comme ça qui se battent pour que dans leur loi, ça soit inscrit le fait qu'ils puissent prendre en considération autre chose que le rendement à leurs actionnaires. C'est un grand privilège pour nous, que ça a été dans notre loi en 1983, on a eu cette légitimité, ce mandat, ce terrain propice à avoir des valeurs. Tu sais, ça fait que oui, on a eu les gens à la FTQ ont été visionnaires quand ils ont inscrit ça dans notre loi constitutive. Puis après ça, ben on avait ce pouvoir-là. Puis on a fait du mieux qu'on peut. Puis on va continuer à faire mieux. Puis fait que c'est ça. Ça fait que ça, je veux juste remettre en contexte qu'on a on est privilégié d'avoir eu un mandat, puis une loi, puis un instrument et financier qui a été conçu avec le long terme, puis l'intégration de valeurs dans son modèle.
Je comprends. Justement, je voudrais revenir sur un des éléments de la mission du fonds, la création d'emplois. Comment aujourd'hui, dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre que l'on connaît et auquel on est confronté, comment est-ce que ça affecte vos activités et comment vous le surmontez?
C'est drôle parce que les gens ont accroché sur la création d'emplois parce que quand on a été conçu, c'était l'enjeu de société puis c'est le premier qu'on a fait. Mais dans notre loi, c'est création, maintien et sauvegarde d'emplois. Donc, à la base, on est un fonds de travailleurs financé par des travailleurs. Donc, l'objectif qu'on a, c'est de s'assurer que les gens aient un emploi puis aient un bon emploi. Donc, aujourd'hui, autant avant, on était dans la création d'emplois, en ce moment, on est beaucoup dans le maintien d'emplois. Je reviens sur la transition technologique, la transition environnementale. Comment on fait pour que les entreprises qui ont à le faire le font de façon juste? Comment on fait en sorte que les entreprises le structurent, le planifient incluent les travailleurs dans ce discours-là, font en sorte qu'ils sont parties prenantes, puis qu'eux autres aussi grandissent. On ne sera pas gagnant comme société si demain matin, 400 000 personnes perdent leur job parce que l'entreprise est devenue tout d'un coup technologique. On n'a pas le choix de faire un virage technologique, on n'a pas le choix de faire un virage environnemental, mais il faut le faire de façon structurée, puis il faut le faire d'une façon telle que les gens gardent leur emploi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on est beaucoup dans supporter les entreprises pour qu'elles gardent leurs emplois, donc qu'elles comprennent l'importance, je ne devrais pas dire même pas qu'elles comprennent l'importance, toute la question de l'expérience employée, on les aide à bonifier leur expérience employée, que ce soit par la redéfinition de leur mission, de leur valeur, de l'expérience qu'elle leur offre. Puis, dans les deux autres volets, on travaille beaucoup sur l'accompagnement dans la transition environnementale et la transition technologique. C'est important que les entreprises le fassent. C'est important qu'elles s'y attellent tout de suite. Puis, nous autres, on essaie de voir au-delà des dollars, comment est-ce qu'on est capable de faire pour les accompagner, puis comment est-ce qu'on les accompagne? Bien, on leur prête du monde. Fait qu'on a physiquement une équipe chez nous qu'on a des discussions avec les entrepreneurs, puis on leur dit comment on peut t'aider. Puis là, bien, eux autres, ils débarquent, puis ils se font aider de consultants, puis on assume une grosse partie de la facture parce qu'on pense que c'est important, c'est notre contribution. Puis là, tu enlèveras une grosse partie de la facture, mais on assume une partie du coût là-dedans. Puis c'est au-delà des dollars qu'on investit dans l'entreprise. C'est une contribution qu'on fait parce qu'on pense que c'est important, puis c'est notre manière de les inciter à le faire. Ça fait que c'est comme si je veux que tu cours un marathon, tu dis « OK, je vais m'entraîner avec toi ». Ça fait qu'on fait ça avec les entreprises.
Jenny, j'aimerais aborder un autre thème qui, j'en suis sûr, t'est cher, la diversité et l'inclusion. Quelle est la position aujourd'hui du fonds par rapport à cela et surtout, comment cette diversité et inclusion sont vécues au quotidien au sein de l'institution?
C'est une très bonne question. Le premier volet dans lequel on a fait, on a essayé de faire une différence, c'est la nomination de femmes sur les conseils d'administration de nos entreprises partenaires. Quand j'étais vice-présidente principale à l'investissement, il y avait tout ce débat d'élargir la composition des conseils d'administration, d'avoir un peu plus de points de vue différents. Et je me souviens d'avoir été assis dans une conférence puis qu'il y avait un débat à savoir est-ce que c'est bon ou pas bon de faire un quota. Si tu fais un quota, bien là, les gens ont l'impression que ça enlevait de la crédibilité aux personnes qui étaient nommées sur des conseils d'administration, etc. Et puis, la norme était beaucoup 30 % puis un effort, meilleurs efforts raisonnables pour y arriver. Puis je suis revenue, je me suis dit, on n'y arrivera jamais. On fera jamais une différence rapidement si on y va comme ça. Ça fait que j'ai proposé à notre conseil d'administration un quota de 40 % Et puis, 3 ans plus tard, on était à 39,5. Puis ça me fait tout le monde sourire parce que les 5 premières candidatures qui m'ont été proposées, je les ai tous refusées. Et puis là, après ça, ça a fait le tour. Puis là, tout le monde a dit, OK, elle est sérieuse. Elle veut vraiment qu'on ait des femmes. Puis à un point tel qu'à la fin, les gens m'appelaient puis me disaient, Jenny, je te jure, j'ai cherché une femme, mais j'en ai pas trouvé. Puis l'entreprise, elle a vraiment besoin de ça. Fait que finalement, c'est vraiment maintenant rentré dans les mœurs. Puis là, on va s'attaquer à la diversité et l'inclusion. Fait que première étape, vraiment, au niveau des nominations sur les conseils d'administration. Après ça, quand j'ai pris en charge l'investissement, il n'y avait aucune femme sur l'équipe de gestion. Donc, j'ai nommé des femmes, j'ai nommé 5 femmes. Puis, j'ai fait la même chose quand je suis arrivée au comité de direction. Donc, j'ai élargi l'équipe. J'avais énormément alentour de la table de talent, mais j'y crois qu'on est une meilleure entreprise en ayant plus de points de vue différents, etc. Donc, maintenant, au niveau, quand je regarde chaque palier, donc quand je regarde comité de direction, haute direction, gestionnaire, employé, on est pas mal dans une zone de parité. Donc, on va... puis maintenant, bien, on va s'attaquer à la diversité, à l'inclusion. Mais je veux le faire d'une façon... Je veux pas le faire pour cocher la case. Pour moi, c'est important de le faire, que ça soit vraiment inclus. Ça fait qu'on commence à, à faire de la formation sur pourquoi c'est important de l'avoir. Deuxièmement, prendre le portrait de où on est, puis après ça, on va voir comment est-ce qu'on est capable de le faire, tout en faisant en sorte que tout le reste des employés grandissent à travers ça. Ça, c'est toujours le débat. Les gens, des fois, disent, « Mais voyons, j'ai-tu plus d'avenir parce que je suis un homme blanc? » Puis non, c'est important de que tout le monde ait sa place alentour de la table. Puis donc, des efforts à tout ce qu'on fait, de le faire de la bonne façon, intelligemment, avec un équilibre, puis que les gens se sentent respectés dans tout ça. Donc, beaucoup de travail au niveau de l'expérience employée qu'on essaie de faire.
J'ai ensuite voulu discuter avec Jeannie Béic des changements climatiques et de leur impact. À travers mes lectures sur les fonds de solidarité FTQ, j'ai remarqué qu'ils parlent fréquemment de transition énergétique juste. Mais quelle est sa position sur cette notion de justice ?
La transition énergétique juste, la question, c'est de le faire de façon intelligente, de s'assurer qu'on le fait pas, qu'on le fait pas pour au détriment des autres générations, au détriment de certains travailleurs, au détriment de certaines communautés, au détriment de certains pans. On a comme trois grands volets dans lesquels on investit. On a un portefeuille qui est du côté public. Donc, ce portefeuille-là, au niveau public, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajusté les critères de sélection, les mandats qu'on donne aux gens qui investissent cet argent-là pour s'assurer qu'ils soient plus verts dans leur décision d'investissement puis qu'ils prennent en compte les critères ESG. Donc ça nous a aidé à atteindre une partie de notre cible. Au niveau du portefeuille investissement, on est beaucoup dans l'accompagnement. Donc on fait, quand on fait la vérification diligente, on regarde le niveau d'appropriation des critères ESG. On s'assoit avec eux pour partager le bilan qu'on fait, puis après ça, on essaie de voir comment on est capable de les accompagner pour l'améliorer. Puis on travaille vraiment sur les aspects sur lesquels les entreprises veulent travailler. Donc, si elles veulent avoir un modèle d'affaires plus axé sur l'économie circulaire, si elles veulent plus former leurs employés, si elles veulent réduire leur empreinte carbone, si elles veulent être plus impliquées socialement, peu importe leur désir, on leur impose pas des choses, on travaille avec eux là où elles sont, puis sur les volets sur lesquels elles veulent s'améliorer. Et puis, il y a évidemment tout le volet immobilier, où c'est qu'on essaie aussi de voir dans les édifices qu'on construit, la vocation, les matériaux utilisés, on essaie de voir si on est capable encore là de faire une différence. Puis, je pense que le dernier volet, au niveau de la formation aussi, on réfléchit à voir comment est-ce qu'on pourrait être encore plus impliqué dans la formation pour aider les travailleurs, les employés à grandir et cheminer dans tous ces débats-là qui sont importants pour la société.
Encore une fois, bravo. Vous êtes clairement un leader sur ces sujets et c'est inspirant, avec même des objectifs chiffrés, puisque des réalisations de diminution de l'empreinte carbone assez importante, de l'ordre de 25% déjà, avec un objectif qui était 2025, mais je comprends que ça a été même déjà réalisé, donc bravo. On arrive à la fin de ce balado. Le temps passe vite en bonne compagnie, mais j'aimerais aborder une question que l'on pose à chaque invité et qui, je pense, est d'importance pour nos auditeurs. C'est quelles sont aujourd'hui, selon toi, les trois qualités essentielles que les futures générations devraient mettre en avant ou développer pour pouvoir au mieux affronter les défis de l'économie au sens large, mais aussi des systèmes financiers du futur?
Moi, je pense que ce qui est extrêmement important, c'est le courage de ses valeurs. Et puis, ça, ce que ça va impliquer, la créativité, ça va impliquer le besoin d'être stratégique dans la manière de trouver des solutions, de les implanter, puis de la persévérance. C'est les trois choses qui me viennent en tête. Les défis qu'on a sont importants. Plus on va être de tête à y réfléchir, à les adresser, à les implanter, mieux on va être comme société, mais ça prend de la créativité, ça implique d'être stratégique puis d'être persévérant. Ça fait que je dirais que moi, c'est les trois. Puis je dirais peut-être aussi la curiosité, la curiosité de voir, d'essayer des choses, de voir ce qui se fait ailleurs, de voir, de faire des choses différemment. Ça va être... C'est ce qui me vient en tête.
Excellente réponse et j'aime beaucoup la notion du courage de ces valeurs. Jenny, merci beaucoup.
Mais merci, ça a été un grand plaisir.
Merci pour ce bel échange. Quelle personne inspirante. Et vous, quelles valeurs vous mobilisent, vous guident à travers votre carrière et teintent votre parcours? Le sujet vous intéresse? Rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour rattraper les épisodes précédents. Et dans le prochain épisode, je me pencherai sur le cas d'Evol, organisation qui soutient les entreprises à propriété diversifiée et inclusive, en discutant avec Séverine Labelle, présidente directrice générale, et Daniel Henkel, porte-parole. À très bientôt !